Voilà, bienvenue Eric.
Bonjour Michel.
Donc, c'était vraiment quelque chose de difficile à trouver, cette radio.
Tout à fait, oui, c'est vraiment une épreuve déjà pour aller à la radio.
C'est une épreuve initiatique.
Tout à fait.
C'est une quête du territoire, mais je trouve que c'est tout à fait symptomatique de ce qu'on va dire ensemble, puisqu'on va parler de ton livre qui s'appelle « Au matin de ma vie ».
Oui.
Donc, qui est publié sur Internet, on en reparlera de la publication tout à fait spéciale.
Et aussi la version papier, bien sûr, mais c'est une édition électronique.
Voilà, c'est une, c'est un petit peu nouveau. Alors, tu es très épuisé, tu as fait un long parcours et tu mérites de te reposer quelques instants et que je lise pour toi peut-être le début. Puis après, on parlera de la nature de ton livre qui n'est pas ordinaire.
D'accord.
Voilà, alors repose-toi. Alors, ce livre, il est constitué d'épisodes. Il y en a un certain nombre, je sais plus, une cinquantaine, 70.
52, ça fait un
52.
Peu, 52 semaines.
Voilà, une année d'une vie, symboliquement. Donc, je vais lire simplement l'épisode 3, pour que l'enfant narrateur du livre, puisque c'est un narrateur adulte, mais qui est aussi narrateur enfant, vous confie le début de tout ce qui a motivé dans sa vie, un changement et peut-être l'écriture, tout simplement.
Oui.
Alors, il y a eu ce jour qui a tout changé. Je sors de ma chambre. Mes grands-parents sont en grande discussion avec mes parents, alors que ça n'arrive jamais. Mamie ne vient jamais voir maman. Que se passe-t-il? On dirait qu'il y a de l'orage dans l'air et que surtout, il s'est passé quelque chose de grave, d'inadmissible, qui a grippé la machine. La machine, vous l'aurez compris, c'est notre famille. Mais c'est aussi ma mère qui semble halluciner par ce qui arrive, même si elle conserve toute sa vivacité et son à-propos pour essayer de comprendre. Quand je sors de ma chambre, je suis comme vous, je ne sais pas ce qui arrive. J'essaye d'écouter, mais ils s'enferment tous dans la salle à manger, alors je n'entends rien. Et puis ils sortent. Je vais dans la buanderie, je monte sur le congélateur, notre énorme congélateur. Par le fenestron, je vois mon père devant l'entrée. Il y a aussi un couple. Elle, je la connais. Lui, non. Et là, je commence à avoir une petite idée, une simple intuition. Elle rime avec trahison. Voilà, ça c'est l'épisode 3, le début du livre. Hein. Eric, un livre qui est bon, qui serait un témoignage, un roman, mais qui est sous-titré « Écrits intimes ».
Alors ça, c'est la section de manuscrits, donc de l'éditeur, c'est « Écrits intimes, témoignages ». Donc, je parle doucement pour essayer de contenir le souffle. Donc, c'est écrit intime, c'est pas moi qui l'ai sous-titré, mais
d'accord.
On m'a demandé justement récemment de sous-titrer et j'ai pensé à quelque chose de la révolte à l'espoir. Parce que ce livre parle beaucoup d'épreuves et aussi d'espoir. Voilà.
Alors, la nature du livre, c'est très difficile de se demander si c'est un roman, un témoignage ou une autre forme, parce que je crois que tout au long du livre, il y a tellement de sincérité du personnage. Je ne veux pas dire si le personnage c'est l'auteur, je ne sais pas.
Mais non, on peut dire que c'est autobiographique, tout à fait, c'est mon histoire. Après on peut dire roman témoignage, mais en gros c'est je me suis mis chaque fois, en fait pour expliquer, ce livre a été écrit au rythme d'un épisode toutes les deux semaines sur internet, sur un site donc d'une association dont je fais partie. On aura peut-être l'occasion de parler.
Oui.
Donc qui accueille des personnes chrétiennes et homosexuelles. Donc, m'a été donné l'occasion, il y a 2 ans, d'écrire à peu près toutes les semaines, donc une régularité qui aide à écrire. Donc tout d'abord, écrire par épisode, et au final, se dire, ben, peut-être que ça peut faire un livre. Voilà.
Alors ça, c'est l'enfant qui parle, et je trouve que ça ouvre justement, ce que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est qu'on a peu l'occasion d'entendre les enfants parler de la souffrance familiale, parler de l'absence de compréhension des choses, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont perdus là-dedans, ils sont doublement perdus parce que les adultes disent des choses, font des choses, et que il est souvent silencieux par rapport à ça, il y a une sorte de...
Il y a aussi l'intuition de sentir des choses, mais de ne pas être au courant, d'être mis à l'écart, de chercher à résoudre même les problèmes. Mmh. Et c'est vrai que moi, il me tardait d'être adulte pour enfin vivre ma vie à moi, parce que j'ai pas maîtrisé, j'ai rien maîtrisé depuis le début.
Alors c'est 30 ans d'une vie,
oui.
Qui n'est pas vraiment une analyse, puisque c'est livré avec les sentiments de l'enfant de l'époque ou de l'adolescent, ou du jeune homme que tu es maintenant.
C'est là qu'on réalise que quelque part on peut dire que c'est une thérapie d'une certaine manière. Bon, j'espère que ça peut aussi aider des gens, mais c'est une manière aussi de régler les choses. Tu disais
une
très simplement que oui. C'est des choses d'enfant. C'est des choses d'enfant que j'avais jamais étalées comme ça de A à Z. Enfin, pas étalées au sens love story ou au sens, mais étalées, c'est-à-dire voilà le début, voilà après ce qui s'est passé, voilà la fin. Mmh. Et maintenant, j'y reviens plus, je passe à autre chose. Mmh. Parce que c'est vrai que ça m'a miné longtemps tout ça.
Voilà. Alors, quel moment précis, j'aimerais bien savoir, à quel moment précis tu as pensé que c'était l'écriture qui allait te permettre de...
Ah.
Et à quel moment tu as voulu dire cela? Parce que on a tous des choses d'enfance ou de famille qu'on traîne plus ou moins. Des fois, les gens adultes, même très âgés, ne parlent pas et gardent ça pour eux. À quel moment c'était venu qu'il fallait absolument parler et pourquoi?
Ben, c'est un parcours qui fait qu'à un moment, on décide le parcours pour aller vite. Et ben moi, ça m'a taffuré, comme on dit, cette histoire. Ça m'a préoccupé. J'ai vu des psys, je me suis analysé, j'ai passé par des étapes au niveau de la foi, au niveau de rencontres, au niveau de plein de choses qui, au bout d'un moment, m'ont fait dire, bon, c'est bien, tu as passé des tas d'étapes, mais tu as besoin d'exprimer. Comme il y en a qui ont besoin de peindre, de faire de la musique au niveau des arts pour sortir quelque chose, hein, c'est vraiment, la création, c'est fabuleux parce que même pour l'émission, là, pour tout ce que j'ai fait dans ma vie au niveau de la radio, au niveau de... J'ai le cerveau blanc, et ben j'écris. J'écris, je me mets à la chose et hop, ça sort comme...
Et... Parce que, en plus, tu as fait de la radio, donc du journalisme, on en parlera, hein, puisque ça apparaît dans ton livre aussi, des expériences particulières. Et donc...
Ils font partie du cheminement aussi, quoi, des moments forts. Ouais.
Alors, paradoxalement, tu es à 30 ans, tu as écrit tes mémoires.
Non, on peut pas dire que c'est des mémoires. Pardon. On peut pas dire que c'est des mémoires. Dans le sens où si je termine une étape de ma vie, oui, on peut dire que c'est les mémoires d'une vie. D'une grosse étape de ma vie. Mmh. Parce qu'il m'a fallu traverser. J'ai pas des fois l'impression, c'est rigolo, mais de dire que je suis un vieillard. Dans le sens où j'ai vécu tout le difficile. Enfin. Le plus dur dans ma vie, et maintenant je sais que j'arrive à profiter de la vie. Voilà, j'arrive à vivre maintenant. Parce que je fais mes choix, je suis adulte, et j'ai arrivé à mettre par derrière ceux qui m'avaient miné dès le départ, ou ceux qui pouvaient même me faire sortir de la vie, tout simplement, me faire désespérer, parce qu'il s'agit beaucoup de ça. Quand on passe des moments difficiles dans la vie, on a le choix. Le seul choix qu'on a, c'est ou se dire, il pleut, mais il va peut-être, je le crois, il va faire soleil. Ou alors se dire, il pleut, il va toujours pleuvoir. Et ça mine, parce qu'on se dit, du coup, j'ai le droit de me désespérer. Et ça, c'est fondamental. Je crois que s'il y a un truc que je voulais faire passer dans ce livre, c'est surtout lâcher pas l'affaire, quoi, même si c'est difficile. Mmh. Et moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans tous mes dessins, il y avait un soleil et un ciel bleu. Donc j'ai peut-être cette qualité ou cette faculté de positiver et de me dire, eh ben, j'y crois à mon soleil, j'y crois à mon ciel bleu. Mmh. Voilà.
Alors ça, je crois que ça traverse ton livre, surtout dans cette relation au père. Hein, souvent, les garçons avec leur père, c'est pas facile.
Tout à fait.
Bon, il y a beaucoup de films qui traitent de ça. Enfin, je sais pas si tu as vu Le Fils Préféré ou des Téchinés, souvent abordent ce sujet. C'est jamais facile, la communication. Mais toi, tu en fais une affaire. J'allais dire une affaire d'État. La communication avec le père, c'est énorme.
Parce que paradoxalement, la communication avec la mère était très fusionnelle. C'était l'extrême. C'est-à-dire qu'à la limite, j'avais deux communications avec ma mère, celle du père et de la mère, et mon père n'existait pas. Parce qu'elle a presque voulu jouer le rôle du père.
Le père était silencieux.
Silencieux.
Tu dis, il n'existait pas, il dit rien.
Enfin, il était silencieux.
Moi, je dirais,
pour moi, il n'existait pas parce qu'il s'exprimait pas. Moi, il me reste que les moments, quelques moments clés que j'ai vécu avec lui dans mon enfance. Ouais. Mais sinon, il n'était pas. Parce que ma mère était omniprésente. Donc, paradoxalement, à côté, mon père était inexistant pour moi. Parce que ma mère était omniprésente.
Donc, le couple des parents, une mère oppressante, tu dis.
Oui.
Mais bon, peut-être que tous les adolescents pourraient trouver aussi qu'ils ont une mère oppressante.
Tout
on en
fait.
Parlera.
Ouais.
Hein. Et un père qui est silencieux, c'est-à-dire que l'enfant que tu étais s'imagine que le père ne l'aime pas.
Hein, même mystérieux. Ouais. Mais au début, je lui donne vraiment le bon Dieu sans confession. Je le mets sur un piédestal. Je me dis que comme il ne parle pas, il sait tout. On est bête quand on est collé. Enfin, on croit surtout à des choses qui nous font plaisir aussi. Et voilà, je me dis, je le mets sur un piédestal et à partir du moment où je découvre que mon père a trompé ma mère, alors là, tout s'effondre. Et quelque part, pour moi, il est banni, quoi. Mmh. Voilà, parce qu'il a fait du mal à ma mère et qu'il a cassé l'équilibre qu'il y avait, le cocon, qui peut-être était superficiel aussi.
Hein. Le bonheur de la famille.
Le bonheur de la famille, ouais, cet équilibre. Hein. Du moins, il a tout bouleversé. Enfin, il. Moi, je le pointe du doigt à ce moment-là, comme ça, mais c'est plus compliqué
alors
que ça.
Ça, c'est l'enfant qui parle, qui est au début, qui est dans son histoire, et qui est sur le congélateur, et qui essaye de comprendre ce qui se passe entre les adultes.
Tout à fait.
Avant de revenir sur là, on écoute une petite musique que tu as choisie. La première,
oui.
C'était quoi déjà?
Alors, la première du CD, c'est Corneille. Alors, c'est symptomatique, c'est parce qu'on vient de loin, et moi, je voudrais ajouter parce qu'on revient de loin aussi.
comme nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer.
Qui disait on vient de...
De loin.
On vient de loin. Alors, Eric, effectivement, quand tu racontes avec une telle sincérité cette enfance, qu'on est très ému, qu'on a d'abord envie d'aller jusqu'au bout, parce que c'est une histoire, c'est presque un roman quand même, la vie. La vie est plus forte que tous les romans.
Oui. Hein.
Bon, ce qui t'arrive dans, trip, ce qui t'arrive dans ta famille, bon, je sais pas... Bon. C'est intime aussi, donc, de le dévoiler, c'est un petit peu...
Alors... Oui, il y a toujours eu, enfin, je tiens à préciser qu'au moment d'écrire, il y a toujours eu le discernement de me dire, de me dire qu'est-ce qui est important à dire et qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui sert à montrer et à parler de ma vie pour le plaisir, ou alors, qu'est-ce qui sert vraiment aux gens à savoir. Voilà, et donc je faisais le tri sans arrêt de me dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi de dire entre ça et ça. Voilà quoi, il y avait toujours ce discernement tout le temps.
Alors, ce que je trouve assez bien dans ton livre, qui est sous forme d'épisodes, de tableaux, donc on lit ça comme les jours qui passent, mais avec beaucoup d'intérêt. Et puis, tu nous habitues à suivre l'enfant, puis d'un seul coup, pof, épisode 8, épisode 16. Alors là, tu nous dis, attendez, là, on est au présent maintenant.
Je malmène un peu le lecteur, enfin le malmener. Je fais un peu du rodéo, parce qu'en fait, ça a été fait sur Internet, si vous voulez. Donc, il y a deux choses. Il y a mon histoire que j'étais en train de raconter, donc mon enfance, et puis il y avait mon présent que j'étais en train de vivre pendant que j'écrivais. Alors, j'espère qu'on me suit.
Je vais donner un exemple. L'épisode 8, l'enfant dans la buanderie, voit ses parents, que c'est le drame familial, ça touche même les grands-parents qui s'en mêlent, parce qu'il y a eu une relation du papa avec une autre femme. Donc c'est l'univers qui... la trahison, etc. Enfin, comme on peut vivre ça dans une famille. Et puis, d'un seul coup, épisode 8, je suis en train d'écrire l'histoire, mais j'ai fait lire ces pages, c'est cet épisode à mon père et voilà ce qu'il m'a répondu. Et à ce moment-là, d'un seul coup, on est dans le présent. Donc c'est complètement interactif. Et le papa, quelque part, corrige ou complète la réalité et te donne les informations. Il dit, ça, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Voilà comme c'était. Ouais. Et d'un seul coup, c'est un lien entre les deux hommes, puisque l'homme que tu es devenu est ton père. Et d'un seul coup, il remet la vérité là où il y avait plein de trous et plein d'absences pour toi dans la compréhension.
Pour dire aussi que quand on est enfant, on ne comprend pas tout. On attache à des événements, des fois, ce qui n'est pas. Et puis, c'était une manière aussi de lui donner la parole, parce que je n'ai pas droit de pas tenir compte de ce qu'il a à dire aussi. C'est normal.
Alors tu écris avec le je, hein, le pronom personnel je, mais en fin de compte c'est pas tout à fait ça, puisque tu écris aussi avec tout le cortège des impressions, des retentissements ou des réactions de ceux qui ont été autour
qui
de
font
toi.
Partie de ma vie. Ouais.
Et tu le dis parce que alors je suis frappée dans ton livre par plusieurs fois où les fins de chapitre. Au secours. Donc on sent que tu es vraiment.
Et oui, je trouve que j'avance pas assez vite, je suis coincée.
Et je trouve que les enfants, quand ils sont dans une situation de divorce, quand ils ont des problèmes comme qu'on va évoquer, et au moment où tout va mal dans ta famille, ils font pour le mieux, tes parents, hein, les parents font toujours pour le mieux, ils te mettent en internat dans un endroit avec catholiques, un peu intégristes, gauche de riches, et tu dis, c'est pas ma culture,
On dirait que tout le monde fait le contraire de ce que j'ai besoin, en fait.
Et tu opposes là une culture de cœur, qui était celle de ta famille, à une culture de tradition, c'est-à-dire les gens, ils ont des rituels.
Je suis fier d'une formule, parce qu'à un moment, bon, il se passe quelque chose, je ne vais pas te raconter dans ce truc, mais je pète un peu les boulons, j'en ai marre, quoi. Et à la fin, je bouleverse un peu je ne me rappelle plus exactement, mais le déroulement bien rythmé de ce sanctuaire de l'éducation. Sanctuaire de l'éducation. Je suis fier de cette formule parce que c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire quelque chose qui meurt, qui est de tradition, mais qui ne vit pas. C'est de l'apparence, quoi. Et après, on fait ce qu'on veut derrière.
Il y a toujours dans la recherche de sincérité, là, on le sent très fortement.
Oui, tout à fait.
Mais je voudrais dire quand même que tes parents, à ce moment-là, ils te mettent dans cet établissement en disant bon, faut qu'il soit cadré et tout ça. Tu travailles plus, tu réussis plus, tu dis j'ai plus la tête à ça. Et il y a une scène assez bouleversante que tu souffres déjà de la situation. Et quand tu reviens à la maison, tu te fais même corriger par ta mère.
Je suis dernier de la classe.
T'es dernier de la classe et ton père te dit, te punit.
Non, c'est carrément, il vient à l'école. La seule fois qu'il vient à l'école, pour me dire que je resterai le week-end pensionnaire, parce que j'habitais à 8 km, j'étais pensionnaire la semaine. Il me dit, tu resteras le week-end parce que t'as pas assez travaillé. Ouais. Donc la seule fois qu'il est présent, c'est pour me sanctionner, en fait.
Alors on a l'impression que l'attitude des parents, elle est complètement inopportune, inadaptée.
Alors je me demande souvent, où est-ce que c'est moi qui suis toujours à côté de ce que les gens... voilà.
Moi je pense à tous les enfants qui souffrent, parce que c'est un petit peu ça, c'est la souffrance de l'enfance dans ton livre. Hein. Tous ces enfants qui souffrent, qui ne peuvent pas l'exprimer, et à qui on renvoie des solutions qui en fait sont complètement inadaptées.
Oui, voilà. Et puis il y a des moments dans la vie où même si on parle, il n'y a pas de dialogue, tout est bloqué. Donc il faut le mieux, enfin c'est malheureux à dire, mais on est obligé de le vivre, ça. On est obligé de passer par là, de passer par le tunnel. C'est pas agréable, mais on n'a pas le choix. Moi j'avais pas le choix.
Alors, le tunnel, moi, la deuxième rupture du livre que j'aime bien, moi, c'est l'épisode 18, où justement tu vas me dire attention, le présent. Alors là, on est dans le récit assez dramatique de ce qui t'arrive, avec la disparition de ta mère brutalement, la famille qui part dans tous les sens. Que tu dis, je suis soulagée de certaines choses, tu culpabilises en disant.
Malheureusement, oui, j'éprouve du soulagement face à l'oppression de ma mère au moment où elle meurt, donc ça, c'est culpabilisant aussi.
C'est dur à porter pour un enfant.
Je le dis à personne, bien sûr, mais je le vis, oui. Je le vis.
Donc, de dire, elle ne pouvait pas à chaque instant, elle me demandait sans cesse ce que je pensais, ce que je faisais, et tout ça, donc c'était oppressant pour
le garçon. Et ce qui est bien, c'est qu'une semaine avant sa mort, enfin, il y a des choses, bon, moi j'ai la foi, donc je donne du sens à tout ça. Mais une semaine avant, j'ai pu lui dire tout ça. J'ai pu lui dire le truc tout bête, qui peut paraître idiot. Et presque, je me suis dit, mais elle s'en est pas rendue compte. Tu me demandes de trop. Je peux pas, j'arrive pas là. Parce que je faisais la tête à table, et elle me dit, mais pourquoi tu fais la tête? Pourquoi? Et moi, je me suis mis à pleurer, j'ai tombé le masque, et, parce que je voulais être fort, j'étais le seul homme parmi ce trium.
Elle était seule, seule à ce moment-là.
Voilà. Et lui dire, mais je peux pas, quoi. Et elle me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et là, pourtant, ça peut paraître des mots tout simples, quoi, mais c'était une prise de conscience pour elle. Et j'étais content de lui dire avant qu'elle meure, une semaine avant. Mmh.
Donc il y a des opportunités aussi
de la vie,
du destin.
Ouais, du destin, ouais.
Alors donc on est dans cette chose-là, puis d'un seul coup, épisode 18, alors là tu nous ramènes le présent, et tu cites une lettre que tu envoyais à ton père pour l'inviter. Alors là on fait un bond en avant de combien, de 20 ans?
On revient au présent.
Au présent, on est toujours dans le même sujet, qui est le problème de communication du père. Tu invites ton père à une fête, une cérémonie de Pax, c'est ça?
Alors là, le lecteur peut être surpris parce que
y a une ellipse là de. Ouais. Mais en même temps, tu as une façon tellement délicate de nous dire, voilà, on est dans le même sujet, mais on est toujours dans la même relation. Voilà ma recherche avec mon père, de s'apprivoiser, d'accepter les différences. Et tu lui demandes d'un seul coup ça, quoi, brutalement, et ton père te renvoie une lettre en disant non, je suis pas content. Enfin bon, et je sais pas si la lettre est véridique, mais elle correspond
un peu. Ah oui, elle est véridique. Oui. Et d'ailleurs, j'avais peur que quand il lise le livre, il accepte pas qu'elle soit publiée. C'est sa lettre. Hein, c'est-à-dire quand je l'ai reçue, je l'ai recopiée. Donc, au moment de mon épisode, je l'ai mis sur Internet à ce moment-là.
Mais cette lettre, moi, je la reconnais comme étant le discours de tous les parents à qui cette chose-là arrive. C'est-à-dire que c'est pas possible que son fils soit différent. Bon,
elle est pas méchante.
Au
début, elle m'a bloqué. Au début, c'est vrai qu'elle arrive comme un constat négatif parce qu'il vient pas. Mais tout ça, comme tu disais, c'est un apprivoisement. Oui. C'est-à-dire que moi aussi, j'accepte qu'il en ait à un autre moment que moi, qu'il n'a pas vécu ce que j'ai vécu, qu'il ne ressent pas l'homosexualité.
Mais en même temps, il y a un manque de confiance en disant oui, c'est des relations qui ne dureront pas, c'est des.
Oui, il remet tout en question.
C'est le péché. Bon, il dit des choses quand même assez dures.
Bien sûr.
Il dit des choses même sur le rejet social. Et je trouve que cette lettre, elle ressemble tellement à celle des gens qu'on entend dans leurs premières réactions, qui sont des réactions de peur.
Légitime, quelque part. Oui. Mais il faut aussi l'entendre et dire bon, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je ne suis pas d'accord.
Tu donnes ta réponse d'ailleurs tout de suite dans l'épisode 18.
Parce que je suis pas là aussi pour dire oui, t'as raison. Au contraire, l'échange c'est ça, c'est dire non. Mais je respecte ton choix. Et tu n'es pas obligé de venir au PAC si tu n'en as pas envie, si ça te met trop mal à l'aise. C'est ça aussi aimer. C'est pas l'amour conditionnel, quoi.
Mais tu parles beaucoup de l'amour dans ton livre, hein, sous toutes ses formes. Mais là, je crois que tu laisses à ton père c'est une grande sagesse, en fait, de lui dire, bon, ben, tu es pas prêt, tu ne peux pas.
J'ai prié avant, quand même, hein, parce que humainement, c'est dur, hein, c'est pas évident.
Je suis déçue, et en même temps, ça ne change rien, tu seras toujours mon père.
Je le renvoie à sa vie à lui, parce que ça, par exemple, il m'a eu raconté, parce qu'il m'a quand même confié des choses, que sa mère, le jour de son examen de dentiste, n'était pas venue à son examen. Et ça, ça a marqué.
Moi, de la vie.
Je l'ai renvoyé aussi à tout le monde de le vit, ça, je pense. Oui. Des déceptions, des voilà. Et je pense que et puis aussi, moi, je me suis pas obsédé sur ça. J'ai remis ça aussi dans la foi. Je me suis dit, écoute, s'il vient pas, il vient pas. Et les choses ont bougé.
Voilà. Ça, on le sait à la fin de lui. Mais peut-être que ces deux lettres, elles nous disent, elles sont le nœud de toute ton histoire avec toutes les difficultés et comment elles peuvent, dans le fond, se résoudre, même quand on pense pense que c'est impossible. Donc je crois qu'il y a une forme de courage aussi d'aborder les choses, et puis d'espoir aussi que les choses vont aller. Hein. Donc une petite musique après cet épisode, oui, alors, éminemment. Oui,
la deuxième affiche, c'est Ma Vie, le titre, et c'est un peu le Michael Jackson français. Moi j'aime bien. Moi c'est un peu jeune, hein, mais il s'appelle Amine. Voilà.
C'était Ma Vie, c'est ça?
Oui, ça s'appelle Ma Vie, oui.
Alors, on ne peut pas tout traverser ce livre. Il y a plein de choses qu'il faut lire dans l'intimité, presque. Mm. Mais il y a une chose qui me paraît très importante, c'est le passage de pétage de plomb, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, un adolescent qui a trop de souffrance et qui ne peut pas le dire. Bon, qu'est-ce qui se passe? À un moment, ça part.
Et il faut quoi.
Ouais. Un fusible qui craque. Et il faut donner un sens à ça. Et là, alors toi, tu as choisi, ton héros, mais toi en même temps.
Enfin, c'est moi, en fait.
Je pense que toi, t'as pas calculé ça. Ça t'est venu comme guidé par...
Je le raconte comme ça s'est passé. Hein. Il n'y a pas de mise en forme. Et je n'ai pas voulu faire de figure de style dans ce livre. Alors, je le dis, c'est sans prétention littéraire. Hein. C'est un témoignage, mais
c'est bien écrit, quand même.
Oui, mais j'aime écrire. Donc. Mais je veux dire, il n'y a pas de tournure pour dire « Regardez comme je suis intelligent ». C'est avant tout être accessible et dire aux gens « Voilà, pour que vous compreniez le mieux possible ce qui m'est arrivé. Ouais. » Voilà.
Alors, ça commence, c'est l'épisode 23, hein, donc au mi-temps du livre. Et puis, à un moment, c'est dit que ce serait bien si je pouvais changer de vie d'un claquement de doigts. Alors là, est-ce que c'est le rêve de beaucoup de...
Ah oui, surtout quand on supporte une vie qu'on n'a pas choisie. Regardez les gamins. Bon, moi, quand j'ai fait lire les premiers épisodes à ma sœur et à mon père, parce qu'il y avait ma sœur aussi, ils m'ont dit, mais tu crois que ça vaut la peine d'être raconté, franchement? Je lui dis, mais c'est pas parce que c'est pas la pire histoire que ça vaut pas le coup d'être raconté. Alors là, je les ai mouchés, j'étais content. Mais c'est vrai. Moi, je suis sûr qu'il y a des gamins, c'est sûr, regardez, des gamins qui naissent, regardez, rien que dans les pays, même dans nos pays riches, avec, ils sont pas favorisés, quoi. Que faire? C'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Alors tu as à peu près 15 ans là. Tu es parti, je sais plus où. Est-ce que ton collège t'a emmené à la montagne ou je sais pas où? Ouais, ouais. Et puis alors tu il se passe ça dans ta tête et tu ne prends pas le train.
Je ne rentre pas.
Tu ne rentres pas. Ouais. Alors, tu es parti entre ce que je vis et ce que je voudrais vivre, ce que vous voudrez que je vive, entre interprétation, désir, souffrance rentrée, le fait que je ne prends pas le train du retour, comme pour me dire ça va peut-être tout arrêter, de ne plus suivre le cours normal des choses. À force de changer de train, épuisé, j'arrive dans une ville dont je me rappellerai à vie le nom. Et cette ville, elle s'appelle
Un peu pluie.
Parce que je dois dire que tu n'étais pas dans la région, donc tu es arrivé petit peu par hasard.
Voilà, moi je suis
dans
du
Rhône.
Ça doit s'entendre, je suis du sud. Donc j'ai, voilà, oui.
Alors tu te retrouves à Un peu pluie, et puis alors ce qui est extraordinaire, c'est que.
Je peux le dire ?
Oui, oui, vas-y.
Si je vous explique pourquoi, vous allez sûrement me prendre pour un fou, mais tant pis, je prends le risque. J'avais le sentiment que c'était comme une épreuve que je devais passer, et que quelque part, on me suivait à la trace. Plein d'idées qui, je le reconnais, n'étaient pas fondées, mais j'acceptais inconsciemment à ce moment-là de vivre dans cette illusion, car la réalité m'était devenue intolérable. Il n'en peut plus, et mélanger, ça fait un peu pluie. Avec un accent de patois du sud, ça passe.
C'est génial ça, un peu pluie, voilà.
Je
les psychanalystes doivent se régaler là, s'ils écoutent.
Donc c'était le signe qu'il fallait que je m'arrête là, un peu pluie.
Après, tu pars de sac, tu couches dehors,
je reste là toute la nuit.
Ouais, bon. Tu changes, alors c'est ordinaire, tu as deux épaisseurs de vêtements, tu les intervertis pour qu'on ne te repère pas à la chaleur de ton corps. Donc, tu es complètement dans un truc de fiction, de science-fiction, on va te repérer à la chaleur.
Quelque part, quand j'y prends du recul, tu parles de psychanalyse. Oui, parce que quand on pense au monde, qu'on réfléchit soi-même, on le contrôle, on sait ce qui va nous arriver, on comprend les choses. Mais moi, j'en avais peur de subir. Et dans ma vie maintenant, je fais tout sauf subir ma vie. Je suis actif, j'essaie de prendre mes responsabilités. Et c'est ça, je crois, de subir beaucoup les choses qui me fait maintenant agir de manière responsable et de me dire, bon, telle institution pense ça, telle personne pense ça. Moi, qu'est-ce que je choisis de faire de ma vie? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va m'épanouir, me faire grandir? Ben voilà, je choisis ça. Mmh. En conscience.
Alors je vais repartir sur les pages un peu plus loin où je vois un appel au secours, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Il y a encore toute l'adolescence, vraiment avec le bac, tout ça.
Oui, le secours, ça dure longtemps. Hein.
Ça dure longtemps. Hein. Donc il y a quelques années difficiles. Bon, tu es aidé un petit peu par les psys. Je crois que ça apparaît pas dans ton livre. Hein, donc ça, c'est la partie secrète.
Je le dis un petit peu, je crois. Oui, je le dis un petit peu au niveau
On saura rien, c'est la partie secrète quand même. Mais à ce moment-là, tu fais une rencontre et je trouve qu'elle est importante parce que c'est une rencontre de communication, il y a quelqu'un qui répond au bout, quoi. C'est dans le cadre d'une association, donc c'est pour ça que c'est très encourageant quand on est tout seul, dans la société quelque part, et là c'est ton association, c'est une personne physique, mais c'est aussi sur Internet, oui. Hein, tu rencontres des gens avec qui tu peux dialoguer sur ces choses-là.
Oui, parce qu'il y avait vraiment un ras-le-bol de subir cette situation, parce qu'il faut expliquer que là, on a beaucoup avancé dans le temps, hein, on arrive en 99, moi j'ai la foi, je ressens de l'homosexualité à moi, je sais pas quoi en faire parce que ça me dérange, je maîtrise pas.
T'as essayé de vivre avec une
J'ai essayé de vivre avec une fille quelques années avant.
Et tu étouffais parce qu'elle était
voilà. Ça reproduisait la relation avec ma mère. Donc je sais pas quoi en faire parce que même si j'accepte pas l'homosexualité, de toute manière au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi.
C'est une réalité.
J'en peux plus, il faut que je vive ça, même si je le cache, enfin c'est lourd à gérer parce que moi j'aime les relations claires, sincères, donc je subis ça, le fait de le cacher, le fait de ne pas l'assumer. Donc il y a la rencontre avec cette association qui permet déjà d'avoir du recul, de rencontrer des gens qui vivent la même réalité. Donc elle s'appelle Devenir un Christ, elle a été créée par Michel Jamais et François Jamais, donc un couple. C'est des gens qui ressentent des êtres homosexuels, donc ils peuvent être parents, époux, donc quelqu'un qui est déjà marié. Les situations sont tellement différentes.
Et c'est un lieu de dialogue, alors.
C'est un lieu de dialogue, d'écoute, de partage, et également de cheminement spirituel, quoi, de maturation, je pense. De se dire surtout, moi j'ai ma foi, j'ai aussi une relation à Dieu, Seigneur, vers quoi je vais être le plus heureux, vers quoi tu vas me permettre d'aimer le plus les gens autour de moi. Et voilà, donc il y a ce que dit l'Église, mais il y a aussi,
Combien de membres dans l'association
sur 200.
200, oui. Plus alors le réseau Internet, puisque ça communique avec un site.
Oui, il y a des connexions, là on est en train, parce que je m'occupe aussi du site, donc on est en train de le refaire un petit peu, donc il y a mutation un petit peu là, mais oui, il y a un site Internet très vivant, on va remettre un forum,
et puis... C'est là que tu as commencé à écrire, alors, par exemple?
Tout à fait.
C'est là que tu as commencé tes premières pages, tu t'es confié quelque part sur ce site aux gens.
Mais d'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, j'ai dit que je passais à la radio et l'actualité, je la mets en premier sur ce site parce que j'ai beaucoup de reconnaissance, quoi. J'ai beaucoup cette association. Moi, je m'y implique maintenant. Je fais partie du conseil d'administration parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a permis d'avoir du recul sur ma vie, pas en me donnant une solution clé en main, mais en me disant, allez. On chemine, relève-toi, on y va. On sait que c'est pas facile, mais vas-y, avance. Reste pas figé. Ne te dis pas qu'il n'y a plus d'espoir, mais avance. Voilà.
Donc ça, c'est une grande partie. C'est alors le haut secours des dernières pages. On l'entend plus dans les dernières pages. Donc on sent que les choses ont évolué.
Heureusement qu'il y a eu un happy end.
Oui, mais bon, ce qu'on voit toujours, par contre, c'est la responsabilité familiale, la culpabilité aussi, puisque bon, il y a des relations avec ta sœur, il y a des choses qui continuent. La famille, c'est jamais fini. Hein, donc,
mais c'est une tranche de vie. Mais ça veut pas dire que tout est fini à la fin du livre. Hein. Non, il y en a beaucoup qui m'ont demandé une suite, mais bon, ça fait que 2 ans que je l'ai terminé. Alors
Après, il y a ton ami, sa famille, comment tu es reçu dans cette famille. Il y a beaucoup de choses qui sont heureuses aussi et qui sont aussi vraiment d'espoir pour ceux qui vivent des choses difficiles, rejet.
C'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'a pas le choix des fois de vivre que des moments négatifs pratiquement. On se dit, mais pourquoi j'ai que des moments négatifs? Et on n'a pas d'autre choix, malheureusement, que de les accepter. Moi, je peux dire, même quand les refus, ça marche pas. On peut pas se changer la vie comme ça, donc claquement de doigts. Hein. On peut y rêver, mais voilà. Donc on passe ça. Mais après, la vie aussi peut être clémente. Il peut y avoir aussi une succession, mais depuis mes 30 ans, même avant, ça fait 4 ans là que je suis avec Didier et que je suis heureux et que je rends heureux les gens autour de moi. Et ça, c'est une fécondité. Peut-être que j'aurai jamais d'enfant dans ma vie, mais la meilleure fécondité que j'aurai, c'est de rendre les gens, d'aider à faire avancer les gens, de les aider, quoi. Voilà.
Voilà. Alors donc ce livre, on va peut-être. Est-ce qu'on écoute? Je sais pas si on a vraiment le temps d'écouter encore un petit peu de musique. Si quelques notes. Et après, on parlera de l'édition parce que c'est sur Internet, c'est encore une autre affaire.
C'est tout un combat, oui aussi.
Toujours avec Eric Louis, donc cet auteur, ce jeune auteur qui vous donne 30 ans de sa vie comme ça dans son livre, publié sur Internet. Alors, dis-nous un petit peu le cheminement pour publier sur Internet.
Alors, le cheminement, en fait, bon, il y a plusieurs... moi, j'ai, en l'occurrence, c'est manuscrit.com. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un fichier électronique au site mon livre.
Il a été retenu.
Voilà.
C'est un éditeur comme un autre.
C'est un éditeur pas tout à fait comme un autre, je dirais. C'est un éditeur entre l'imprimeur et l'éditeur traditionnel. Voilà. Donc, à mon avis, pour un premier livre, c'est pas mal, parce que, bon, voilà, c'est une première étape qui est pas mal. Donc, ils me l'ont, bon, il faut du temps quand même, hein. Moi, je l'ai, bon, il faut du temps pour qu'il soit mis en vente, mais il est mis en vente en fichier électronique et en version papier sur leur site. Donc, et après, bon, c'est vrai que leur réseau de diffusion, il laisse un peu à désirer dans le sens où ils ne sont pas reconnus trop par le monde professionnel de l'édition. Voilà. Ils ont 3000 auteurs, ils ont 3000 titres. En fait, moi j'ai découvert, parce qu'il y a un dépôt légal au
voilà,
niveau
c'est
des...
Ça que voilà, je l'utilise.
Il y a un dépôt légal à la Bibliothèque de France, je suis allé sur le site, il n'y a que 5 titres de manuscrits qui sont en dépôt légal. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes si on se fait piquer une œuvre à l'étranger, par exemple. Mais du moment en France, pour, il y a une antériorité, du moment qu'on a signé un contrat, quand même il y a une antériorité, donc ne paniquez pas. Les auteurs de manuscrits qui m'écoutent, voilà, il y a quand même une intériorité, mais ça m'a pas empêché de déposer quand même au niveau d'un site internet, auteur quelque chose, je crois, auprès d'un huissier pour 15 €. Ça m'a fait un peu peur. Voilà, bon, tout
parce
ça.
Parce que le dépôt légal, il faut un tirage.
Voilà, il faut un tirage voilà. Initial de 100 exemplaires. En dessous, c'est pas obligatoire au niveau
d'accord.
de la loi.
Et là, comment ça se passe pour le tirage? Alors, il y en a quelques-uns.
Alors, mais le tirage,
c'est à la demande.
C'est à la demande. C'est de l'impression à la demande. Voilà. Ouais. Donc le premier mois, le tirage initial, c'était un, puisque c'est celui que je me suis envoyé. Il y a eu des problèmes. Enfin bon,
parce qu'il. On va pas tout dire.
Voilà, il y a un délai d'un mois, un petit peu pour le recevoir. Bon. Non, de toute façon, donc, c'est pour ça que moi j'essaie de simplifier.
Pour ceux qui nous regardent avec sur internet,
bonjour, coucou.
ils peuvent voir la pochette. Elle est bon là.
Elle est sobre. Hein, oui.
C'est joli.
Oui.
Enfin, c'est joli.
Puis j'aime le bleu. Donc.
Oui, la jaquette est.
Mais on peut
sympa.
On peut donner mon site internet parce qu'il y a carrément la photo du livre. Donc c'est ericlouis.net. Il est ouvert depuis aujourd'hui. Il y a l'occasion d'un.
Alors, Eric, il y a une petite lettre. Ça se tient tout.
Tout attaché, Eric Louis.
Eric
comme Eric,
prénom.
Louis
voilà.
Comme Eric, voilà.
Oui,
bon, c'est un pseudo, hein, c'est mon premier et mon troisième prénom. Grand-père, donc c'est un hommage aussi pour lui. Donc, ericlouis.net, dessus on peut acheter mon livre directement, en payant par carte bleue. Donc voilà, j'ai simplifié au maximum.
Voilà, et sinon si on n'en aime pas.
Et là, je l'envoie donc
d'accord.
Voilà, par chèque
ouais, donc,
à l'ordre d'Eric Louis.
Donc cet éditeur, il a pas trop de travail en fait, parce qu'il imprime qu'à la demande, il n'est pas obligé d'avoir de stock. Voilà. Mais en même temps, c'est une ouverture plus large.
C'est une ouverture, mais c'est une étape en fait. C'est une étape. Le contrat dure 1,5 ans, et là, bon, je tâte le terrain pour un prochain éditeur qui va. Voilà.
D'accord.
Donc, je ne vais pas en dire
alors,
plus.
On a les premières 30 années d'Eric Louis, son livre qui est très intime, et bon, il y a de belles choses, et de le lire, des jeunes aussi, parce que c'est une expérience. Très riche et très sensible. Et puis, et voilà. Et l'autre site, alors peut-être, où tu dis pour les familles qui oui. rencontrent, par exemple, l'homosexualité dans leurs enfants.
Le site de l'association?
Oui, c'est l'association. On va donner le site aussi.
De toute façon, c'est Devenir en Christ. Il y a le lien sur mon site, mais c'est Devenir en Christ tout attaché.net. Donc, où là, vraiment, il y a. Enfin, moi, j'encourage vraiment tous ceux qui ont envie de parler, d'avoir du recul sur la situation, de venir. Quoi. Il y a des groupes locaux à Lyon, à Paris, à Toulouse.
Donc lieu de dialogue, comme ce livre qui se veut, et c'est sa page de garde. Je ne sais pas si on aura le temps de la lire, parce qu'on est à quelques encablures de la fin de l'émission, mais la page de garde, c'est, je transmets parce que j'ai une expérience, et je veux vous en faire profiter aussi. Hein,
ouais, c'est ça le but.
Voilà. Ouais, alors Eric, merci de ce témoignage sensible, on reparlera de ce livre Au matin de ma vie, publié donc manuscrit.com et le site d'Eric Louis.net qu'on peut consulter sur internet bien sûr. Merci de votre attention à tous ceux qui nous ont écoutés et à la semaine prochaine où je crois qu'on parlera du festival Parole Ambulante, il me semble, qui se prépare. À bientôt. Merci Théo pour cette excellente technique.
Radio Pluriel.